Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, on va encore prier quelques instants. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie de bénir ces instants et vraiment de nous préparer, Seigneur, à l'écoute de ton message. Seigneur, je te demande de bénir ma bouche, mon intelligence, pour que j'arrive à exprimer et à dire tout ce que tu as mis sur mon cœur, cette pensée que tu as mis sur mon cœur. Et je te prie, Seigneur, de bénir aussi toutes les personnes ici présentes, que leurs oreilles soient ouvertes, et que ce que tu veux déposer dans leur cœur puisse se déposer, sans entrave. Seigneur, je te prie de nous bénir tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai intitulé cette méditation « Le levain des pharisiens ». Et je vous propose une lecture d'introduction dans Matthieu, chapitre 16, du verset 5 au verset 12. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce qu'ils n'ont pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez remportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain et du pain qui leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. La question que je me suis posée, c'est ce passage, qu'est-ce qu'il nous apporte à nous aujourd'hui, au XXIe siècle? La première chose, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le levain? Alors, si la technique veut me suivre, pour confectionner un levain, eh bien c'est simple. Il suffit de 2 ingrédients. Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, et vous laissez ce mélange à l'air pendant quelques heures. Et dans l'air ambiant, eh bien, cet air ambiant contient en permanence des quantités importantes de bactéries lactiques et de levures qui se baladent. Et ces dernières vont se déposer sur le mélange. Et comme celui-ci, eh bien, correspond à un mélange nutritif complet, eh bien, elles vont se développer et se multiplier rapidement en produisant une fermentation. Et ensuite, il suffira d'incorporer un peu de ce levain à un mélange d'eau et de farine, et on peut lever la pâte. Et bien, en fait, il en est de même pour notre vie. Notre cœur est un terrain fertile, facilement infecté par des pensées, des doctrines, des dogmes, qui ne sont pas forcément dans la pensée de Dieu. Jésus était conscient de cela. Et c'est justement ses disciples qu'il avertit ainsi d'être vigilants face à l'enseignement et à l'état d'esprit. En fait, tout ce qui va dans le sens de la nature charnelle sera facilement assimilé par notre être. Et nous devons être conscients de nos fragilités, mais aussi des pièges de certains enseignements, de certains états d'esprit, qui justement pourraient nous faire si facilement dévier. Alors maintenant, on va s'intéresser aux 2 états d'esprit pour lesquels Jésus nous demande de faire attention. Le premier, je vais le prendre en sens inverse, c'est celui des sadducéens. qu'est-ce que les Sadducéens? À l'époque de Jésus et pendant la période du Nouveau Testament, les Sadducéens, en fait, étaient des aristocrates. La plupart étaient des gens fortunés et qui occupaient des fonctions élevées. Y compris, parmi eux, il y avait des prêtres, des sacrificateurs. Et le conseil suprême religieux de l'époque, qu'on appelait le Sanhédrin, était occupé en majorité pendant les 70 sièges par des Sadducéens. Et en fait, les Sadducéens travaillaient constamment à maintenir la paix en Israël, qui à l'époque était sous domination romaine, justement en s'alignant sur les décisions de Rome. Et en fait, ils étaient beaucoup plus concernés par la politique que par la religion. Et comme ils étaient conciliants avec Rome, et qu'ils faisaient partie de la haute société, eh bien, ils n'avaient que peu d'affinité avec les gens ordinaires. Et cela rendait leur relation extrêmement difficile avec le peuple, et les gens de la rue ne les estimaient pas beaucoup. Et bien qu'ils occupaient la majorité des postes dans le Sanhédrin, eh bien, l'histoire nous montre que la plupart du temps, ils étaient obligés de s'aligner sur l'idée des minoritaires, c'est-à-dire les pharisiens, parce que eux, les pharisiens, avaient la faveur du peuple. Alors, sur le plan religieux, les sadducéens, ils étaient conservateurs dans un certain nombre de domaines. Tout d'abord, ils considéraient les Écritures comme venant exclusivement de Dieu. Les Sadducéens préservaient l'autorité de la parole écrite de Dieu, spécialement donc les livres de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque, donc de la Genèse à Deutéronome. Et bien que leur attachement à cette doctrine soit tout à fait louable, en fait, ils n'y étaient pas très fidèles. Et voici quelques exemples des croyances qu'ils professaient et qui en fait sont contraires avec les Écritures. Tout d'abord, ils étaient extrêmement suffisants, au point de nier l'intervention de Dieu dans leur vie quotidienne. Ensuite, ils niaient toute résurrection des morts. Et ça, on peut le retrouver dans Matthieu chapitre 22, Marc chapitre 12, dans Actes 23 aussi. Troisièmement, ils niaient qu'il existe une quelconque vie après la mort. Ils disaient que l'âme périt au moment de la mort et qu'il n'y a pas de conséquences après la vie terrestre. Donc pas de châtiment, pas de récompense. Ensuite, ils niaient l'existence d'un monde spirituel. C'est-à-dire pour eux, les anges et les démons n'existaient pas. En fait, les Sadducéens étaient plus concernés par la politique que par la religion. Et ils ne s'intéressèrent à Jésus que vers la fin de son ministère, lorsqu'ils commencèrent à avoir peur qu'il attire l'attention des Romains. Et c'est justement à ce stade que les pharisiens et les Sadducéens s'unirent et complotèrent pour mettre à mort Jésus. On le voit dans Jean 11, dans Marc 14. Et l'historien Fabius Joseph indique que les Sadducéens furent aussi impliqués dans la mort de Jacques. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Première question, combien de fois faisons-nous des compromis par rapport à l'Évangile? Parce que ça arrange nos affaires. Est-ce que ma position sociale est-elle plus importante que celle d'être disciple? Est-ce qu'on a encore conscience de l'enfer et de la perdition pour ceux qui ne croient pas? Est-ce que le message de la croix est-il encore prégnant dans notre vie? Est-ce que nous ne sommes pas devenus matérialistes? En fait, les Sadducéens ont cessé d'exister après l'an 70. Pourquoi? Puisque ce qui s'est passé en 70, eh bien, Rome détruisit Jérusalem et le Temple. Et ainsi, les Sadducéens ont perdu leur lien politique, leur lien avec le sacerdoce, et en fait, eh bien, les Sadducéens ont totalement disparu à partir de 70 après Jésus-Christ. Alors, quel est le lien avec notre vie aujourd'hui? Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui se donnaient tellement à fond pour les activités de l'Église que le reste de la semaine, eh bien, ils n'étaient plus capables de faire quoi que ce soit. C'était le conjoint qui devait tout faire. Question qu'on peut se poser, est-ce que les activités dans l'Église sont l'accomplissement de ma vie? Est-ce que je suis en relation avec des chrétiens uniquement parce qu'ils sont dans une activité dans l'Église avec moi? Et si un frère ou une sœur ne vient plus, ne peut plus venir, est-ce que je vais continuer à avoir des relations avec lui ou avec elle? Ou bien, est-ce que mes activités ont tellement d'importance, je n'ai plus de temps à consacrer à ceux qui étaient mes compagnons de route et qui sont restés au bord du chemin? Et pour aller plus loin, est-ce que notre vie de foi, notre vie avec Dieu, c'est uniquement le dimanche ou à travers les activités de l'Église? Et en pensant à ça, j'étais en train de relire ma méditation samedi matin, et ma fille, ma dernière, elle est venue me voir, et elle m'a parlé d'un cours de religion qu'elle avait eu, où il a parlé de Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, c'est un homme qui était croyant, un chrétien, et qui a décidé de... qui était issu d'une famille riche, et qui a décidé de tout donner et de se consacrer à Dieu. Et après avoir tout donné et commencé à se consacrer à Dieu, eh bien, il a eu à cœur de devenir maçon pour reconstruire les églises. Et quand il commençait à reconstruire les églises, il s'est senti interpellé parce qu'il a réalisé que l'église, ce n'était pas des pierres, mais c'était avant tout des communautés d'hommes et de femmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé l'ensemble de l'œuvre des franciscains. Alors, maintenant qu'on a vu les sadducéens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux pharisiens. Alors, les pharisiens, c'est une secte importante du judaïsme au 1er siècle. Et selon certains spécialistes, leur nom signifie littéralement « séparé, séparatiste ». Peut-être parce que, dans leur culte, ils évitaient toute impureté rituelle, et surtout ils se tenaient à part des gentils, c'est-à-dire les non-croyants, les non-juifs. En fait, on ignore exactement quand apparurent les pharisiens. Cependant, il y a un historien qui s'appelle Joseph, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Flavius Joseph, qui indique que, à peu près vers la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les pharisiens étaient déjà un groupe influent. Et Joseph écrivit : ces hommes ont une telle influence sur le peuple que même s'ils parlent contre le roi ou le grand prêtre, ils trouvent aussitôt créance. Et Joseph fournit dans ses textes aussi des détails sur les croyances des pharisiens. Il écrit par exemple : ils croient à l'immortalité de l'âme et à des récompenses et des peines décernées sous terre à ceux qui, pendant leur vie, ont pratiqué la vertu ou le vice. Ces derniers étant voués à une prison éternelle, pendant que les premiers ont la faculté de ressusciter. Il dit aussi : ils pensent que toute âme est impérissable, que celle des bons seuls passe dans un autre corps, et que celles des mauvais subissent un châtiment éternel. Et les pharisiens avaient cette capacité à faire évoluer le dogme juif. En effet, si les sadducéens, eux, s'arrêtaient aux cinq livres, les pharisiens, eux, dans leur culture, dans leur tradition, disaient que la révélation que Dieu a faite à Moïse, eh bien, perdurait encore aujourd'hui. Et que justement, Dieu enrichissait encore la parole aujourd'hui par des lois, etc., etc. Et donc, ils étaient très attachés à la loi orale et de cette manière-là se plaçaient en opposition avec les Sadducéens. Et le résultat, c'est que le pharisianisme, les pharisiens, eh bien, ont impliqué le développement de la synagogue. Ils ont été le mouvement qui a commencé à faire apparaître les synagogues parce que c'était le lieu où on interprétait la loi. Et ainsi, on considère que le pharisianisme est à l'origine du rabbinisme et de la mise par écrit de la loi orale dans ce qu'on appelle le Talmud aujourd'hui. Alors, quelles sont plus précisément les doctrines et les états d'esprit du pharisianisme que Jésus condamne? Alors, pour ça, on va passer à une première lecture dans Luc, chapitre 18, au verset 10. Le pharisien s'est tenu là et s'est mis à prier ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, extorqueur, injuste, adultère, ou bien encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je donne le dixième de tout ce que j'acquiers. Or, le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Et un autre passage dans Luc, chapitre 5, verset 30, dit « Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise foi ?» En fait, les pharisiens, eh bien, s'enorgueillissaient de leur prétendue justice. Et ils méprisaient le peuple. Leur pratique drastique de la loi et des coutumes leur donnait un sentiment de supériorité. Leur zèle, leur investissement leur donnait l'impression qu'ils gagnaient par leur propre force leur place au ciel. Et parallèlement, le développement de leur propre justice faisait croître en eux un esprit de jugement vis-à-vis des autres. Ils étaient imbus de la valeur que leur procurait leur stricte observance des principales dispositions de la loi, sans se rendre compte, malheureusement, que seule leur apparence était touchée par cette obéissance légaliste, alors que leur cœur, lui, eh bien, était dépourvu de justice, d'amour et de miséricorde. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Nous arrive-t-il de nous croire meilleurs que les autres parce qu'ils ont des défaillances ou des faiblesses, ou encore en raison de nos aptitudes ou des responsabilités que Dieu nous a confiées? Est-ce que j'estime que mes nombreuses années de fidélité, mes responsabilités dans l'organisation de l'Église, dans des activités, ou bien mes aptitudes naturelles me rendent supérieur aux autres? Et quand je vois ou connais une faiblesse, une défaillance, des difficultés chez un croyant, quel est mon état d'esprit? Ai-je un regard accusateur? Est-ce que je me dis, c'est un pécheur? Ou bien, s'il arrive telle ou telle chose à une personne, est-ce que je me dis, c'est pas possible, si ça lui arrive? C'est parce qu'il a péché, c'est les conséquences du péché. Si on est dans cet état d'esprit, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut vite nous ressaisir. Parce que les Écritures disent dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, l'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil, n'agit pas de façon inconvenante, ne cherche pas ses propres intérêts, ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal subi, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Un autre point des pharisiens, on le retrouve dans Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. En fait, les pharisiens cherchaient à impressionner les autres en affichant leur prétendue justice. Ils souhaitaient être en vue et aspiraient à des titres flatteurs. Ils se distinguaient justement par leur costume, comme on le voit sur la diapo, et attendaient de la révérence de la part du peuple. Ils se considéraient comme étant investis de Dieu d'une autorité, d'une sagesse spirituelle vis-à-vis des simples croyants. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Ai-je tendance à faire preuve de favoritisme envers ceux qui assument des fonctions dans la congrégation, dans l'Église, dans l'espoir d'être bien vu ou d'obtenir des responsabilités supplémentaires? Et ça me fait rappeler une petite histoire que m'a raconté un jour un responsable de l'Église. Il m'a dit, voilà, mon fils est dans l'Église et souvent il était avec ses copains à la fin du culte. Et puis il y avait une personne qui venait, qui serrait la main au jeune et qui ne saluait pas la main à son fils. Et un jour, il s'est aperçu que celui qui prêchait de temps en temps, eh ben, c'était son fils. Et là, il dit « Bonjour, ça va ?» Un peu de levain. Alors, est-ce que je privilégie aussi des aspects du service qui me semblent plus valorisants que d'autres? En fait, la question qu'on doit se poser, est-ce que je suis animé du désir d'être admiré? En fait, le pharisien s'est laissé séduire par cette connaissance, croyant que la connaissance seule suffisait pour le changer, sans se rendre compte qu'elle n'avait pas produit en lui la vie. Le pharisien, c'est celui qui peut vous expliquer la doctrine, qui peut vous expliquer le salut, qui peut vous expliquer la marche par l'esprit, sans pour autant y marcher. En fait, c'est un terrible piège que la connaissance. Parce que comme dit la Bible, la connaissance te hante, mais c'est l'amour qui est ici. Et ce qui va se passer, c'est que cette connaissance, elle nous conduit à développer dans notre vie de l'orgueil. Et les pharisiens sont tellement enfoncés dans leurs certitudes fausses et leurs préjugés qu'ils ne se rendent pas compte de leur état spirituel. Et très souvent, ils n'acceptent pas d'être repris à ce sujet, convaincus d'être dans leur bon droit. Est-ce que je pense que seulement certaines personnes sont capables de me conseiller? Est-ce que j'accepte d'être repris? Ou bien est-ce que je considère que je suis au-dessus des autres? Là encore, c'est du levain du pharisien. Jésus justement dira, dans Matthieu 23, « Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc, un autre aspect du pharisianisme, on le retrouve dans Marc, chapitre 7, verset 3. Il est écrit « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » En fait, par leurs règles et leurs traditions, les pharisiens rendaient l'application de la loi pesante pour le peuple. La loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, elle définissait dans les grandes lignes, et non dans le menu détail, la manière dont Israël devait adorer Dieu. Par exemple, elle interdisait de travailler le jour du sabbat, sans définir explicitement ce qui constituait un travail. Dans Exode, chapitre 35, il est écrit « On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. » C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera pris de mort. Mais eux, les pharisiens, ça ne leur suffisait pas. Alors ils ont cherché à combler ce qu'ils considéraient comme un manque en ajoutant des lois, des définitions, des traditions. Oui, alors on ne porte rien, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça. Un autre exemple, c'est dans Jean chapitre 8, au verset 3. Il est écrit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. » Et justement, ils ont dit à Jésus « Voilà, cette femme est prise en adultère. » Alors, la loi juive, elle dit une chose. Alors, oui, qu'est-ce qu'elle dit la loi juive? Dans Lévitique chapitre 20, verset 10, elle dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Dans l'épisode de la femme adultère, ils n'ont ramené que la femme. Sûrement ont-ils considéré que c'est la femme qui était responsable, que l'homme était tombé sous son charme, sa séduction, que lui était innocent, le pauvre. Mais cette pensée, eh bien, on la retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux mouvements religieux. Dans certains mouvements, il faut couvrir la femme, il ne faut pas qu'on la voie. Est-ce que ce n'est pas l'œil qu'il faut changer plutôt que la tenue de la vestimentaire de la femme? Est-ce que je cherche à établir des règles arbitraires et inflexibles ou encore à ériger mes opinions en loi? Est-ce que j'ai des attentes raisonnables vis-à-vis des gens qui m'entourent? Est-ce que je tends les Écritures pour qu'elles correspondent à ce que je pense? Est-ce que je suis dans la loi ou dans l'esprit de la loi? Et le pharisianisme, le légalisme, la propre justice, en fait, elle finit toujours par nous amener à faire des compromis avec la loi. La plupart des gens qui sont dans cet état d'esprit placent les personnes sous des jougs, mais pour eux-mêmes, ils ne s'appliquent pas ce qu'ils commandent ou conseillent aux autres. En y réfléchissant, je me dis, il y a même une autre forme encore plus subtile de légalisme. C'est le légalisme de l'anti-légalisme. Et vous avez certains groupes chrétiens qui sont tellement soucieux de laisser l'esprit les diriger en toutes choses qu'ils refusent obstinément toute forme d'organisation et de structure. Et ils en viennent à ne plus avancer et à rester spirituellement bloqués par crainte d'entrer dans un système humain ou de se laisser diriger par des hommes. Ils finissent par devenir aussi rigides que les légalistes qu'ils voulaient combattre. Mais en fait, quand on y réfléchit, ce n'est pas l'organisation qui est dangereuse. C'est le refus de modifier cette organisation quand le Saint-Esprit nous le demande. Et en fait, une telle rigidité, et là, c'est un légalisme, et tout légalisme, en fait, est une œuvre de la chair. Dans Matthieu 23, au chapitre 3, au verset 3, il est écrit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Et dans Luc 12, 1, il est écrit « Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Ce qui caractérise le pharisien, c'est sa tenue caractéristique et son observance des rites. Cependant, tout cela, eh bien, ça ne transforme pas l'humain. Bien au contraire. Toutes ces choses sont des expressions de la chair. Les pharisiens étaient dans le paraître. Ils faisaient un show, au sens littéral du terme en anglais. Ils étaient dans le sens littéral du terme hypocrite aussi. Parce que le mot grec, hypocrisis, signifie littéralement rôle de théâtre. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? N'avons-nous pas aussi un costume de chrétien du dimanche? Sommes-nous le même la semaine avec notre conjoint, avec nos enfants, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail ou d'études? Est-ce que dans l'Église, je ne suis pas prisonnier d'un rôle? Est-ce que je suis réellement ce que je fais paraître? Et ce levain d'hypocrisie s'est levé sur, nous et sur les autres qui nous entourent, un joug de servitude qui nous fait souffrir, mais qui fait aussi souffrir tous ceux qui nous entourent. Et en fait, l'hypocrisie, elle va nous encourager à la dissimulation. Elle encourage ceux qui ne sont pas bien affermis, justement, à cacher les choses, à ne pas montrer ce qu'ils sont, justement par la crainte d'être jugé ou d'être condamné. Et en fait, l'hypocrisie bloque la liberté spirituelle. Et comme il est écrit dans Jacques, la possibilité de confesser nos transgressions les uns les autres. Un autre point aussi qu'on retrouve dans le pharisanisme, et c'est ce qui a provoqué la mort de Jésus-Christ, c'est que les pharisiens avaient un esprit de contrôle. Ils voulaient tout contrôler. Parce qu'ils étaient dans la chair, parce qu'ils étaient dans un légalisme, eh bien, ils voulaient toujours tout contrôler. Jésus, lui, nous dira, vous êtes réellement libre. La question qu'on peut se poser, est-ce que moi, je n'essaie pas de contrôler ce qui m'entoure? Est-ce que je les laisse libres? Alors, pour conclure, cet avertissement de Jésus s'adresse encore à nous aujourd'hui. Le pharisanisme peut s'immiscer dans notre cœur, tout simplement parce que nous sommes de nature charnelle. Et il nous faut donc nous débarrasser dans nos vies de ces éléments qui nous empêcheront de grandir dans notre foi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul dira « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisqu'en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Bien, demandons à Dieu de nous éclairer, de voir là où il y a encore justement des zones d'ombre dans notre vie. Nous ne pouvons pas changer si nous ne réalisons pas qu'il y a des choses à transformer dans notre vie. Ne soyons pas aveuglés par notre propre justice, mais justement, laissons le Seigneur nous interpeller. Dans Galates chapitre 5, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Alors, je vous propose qu'on ferme les yeux quelques instants. Et que ce matin, on puisse faire une auto-évaluation sur notre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole, elle est toujours d'actualité. Parce que ta parole nous montre que les hommes n'ont pas changé, que nous sommes toujours les mêmes, que notre cœur est toujours tortueux et que nous avons besoin d'une transformation profonde et intérieure. Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons faire une évaluation, voir ce qu'il y a en nous, voir où est-ce qu'il y a encore du levain, supprimer ce levain. Ce matin, je vous encourage à faire cette prière. Ô Dieu, fais la lumière sur ma vie et sur mon cœur. mets en lumière tout ce qui te déplaît dans ma vie. Seigneur, mets toutes ces choses-là devant mes yeux pour que je vois clair et que je puisse changer ces choses. Et ce matin, si tu te dis, oh, ces petites choses, c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, c'est des détails. Mais Seigneur nous dit ce matin que ça c'est du levain. Et qu'un tout petit peu de levain suffit à faire lever toute la pâte. Alors ce matin, si tu sens en ton cœur qu'il y a des points encore sur lesquels tu vas être pris par la chair, par les choses de la chair, le Seigneur le sait, le Seigneur te connaît, le Seigneur nous connaît parfaitement. Et le Seigneur ce matin veut t'aider, il veut enlever tout ce levain. Il veut venir à ton secours par son esprit. Pour que tu ne marches pas selon la chair, mais que tu marches selon l'esprit. Que tu puisses vraiment prendre conscience de ton état de cœur tel qu'il est encore aujourd'hui. Le Seigneur veut faire croître, veut faire développer sa vie en toi. Il veut te faire progresser encore ce matin. Alors ce matin, ne résiste pas. Ce matin, laisse-toi complètement envahir par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir ce matin et te montrer avec amour ce qu'il doit encore changer dans ton cœur. Non, le Seigneur ne veut pas que tu restes comme ça. Il veut vraiment que tu sois conscient de là où il y a du levain. Le Seigneur veut vraiment te changer, te transformer. S'il l'a dit à ses apôtres, il peut te le dire encore aujourd'hui. Méfie-toi du levain des pharisiens et des sadducéens. Il veut que tu sois vigilant. Il veut que tu veilles sur ton âme ce matin. Le Seigneur veut te bénir. Alors ce matin, je t'en prie, vraiment, tourne-toi vers lui. Tourne-toi sincèrement de tout ton cœur, afin qu'il te purifie, afin qu'il te lave, afin qu'il te transforme intérieurement. Au nom de Jésus-Christ.